Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition des Grands Entretiens. Philippe Contamine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation, je suis très heureux de vous recevoir à ce micro. Faut-il vous présenter? Vous êtes professeur émérite d'histoire du Moyen-Âge à l'Université Paris 4 Sorbonne, vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, auteur de nombreux ouvrages, vous avez dirigé des étudiants qui aujourd'hui sont de grands médiévistes. J'ai reçu à ce micro Lidwin Scordia pour son émission, pour son livre consacré à Louis XI. Et il s'agit d'une des émissions les plus écoutées de Storia Voce. J'en suis très content. Donc vous avez formé beaucoup d'étudiants et étonnamment, vous n'aviez jamais publié de biographie. Vous venez de le faire aux éditions Perrin, sur un personnage un peu inattendu. Je vais dire pourquoi c'est un peu inattendu, il s'agit de Charles VII. Charles VII, donc chez Perrin, et en sous-titre, vous avez choisi une vie, on se doute pourquoi, parce qu'il s'agit d'une biographie, mais une politique. Et c'est bien évidemment le mot « une politique » qui est très intéressant, parce que la première perception que l'on peut avoir du personnage, c'est que c'était un personnage faible, c'est que c'était un personnage fallot, et pourtant, vous montrez l'inverse. Est-ce que, Philippe Contamine, cette biographie vise à réhabiliter le personnage ?
Cette biographie cherche à atteindre ce qu'on peut appeler, d'un terme un peu prétentieux, la vérité historique, telle qu'elle, telle que je peux la saisir, après avoir été en contact avec ce personnage, qui effectivement n'a pas une réputation extraordinaire, à travers de très nombreuses années. Vous l'avez dit, je n'ai jamais écrit de biographie. Pour les gens du Moyen-Âge, c'est difficile de faire des biographies. Vous vous souvenez des critiques que Jacques Le Goff avait faites à propos de la biographie de Saint-Louis. Il l'a faite, et même c'est un monument, mais enfin, il nous a bien dit qu'il ne s'agit pas d'une biographie comme on peut faire une biographie de Churchill, de Gaulle ou de Kennedy. Alors, je crois quand même que, pour l'époque envisagée, 15e siècle, compte tenu des sources, compte tenu peut-être de l'évolution des mentalités, il est plus aisé de tenter une biographie de Charles VII que une biographie de Louis IX, Saint-Louis, qui, pour ainsi dire, est écrasé par sa sainteté. Ça n'est pas le cas, vous imaginez bien, de Charles VII. Alors c'est ça ce qui m'a tenté, d'abord, c'est que je crois que pour ce personnage, qui est central dans la France du XVe siècle, parce qu'un roi, c'est beaucoup plus qu'un roi, c'est un royaume, c'est un ensemble de sujets dont il est responsable devant Dieu et devant les hommes. Je crois que dans le cas de Charles VII, compte tenu en plus de sa longévité assez exceptionnelle, c'est un défi.
43 ans de règne.
Voilà, c'est un défi que je voulais relever et à la longue, j'y suis parvenu.
Alors, vous parlez des sources et de l'importance des sources et quand on lit votre ouvrage, on est époustouflé par le nombre de références que vous pouvez donner, tel l'entomologiste, vous décortiquez chacun des textes en avançant une idée, en essayant de voir si un autre auteur dit le contraire ou bien nuance davantage l'idée. Ces sources sont vraiment importantes.
Et encore, j'ai élagué. Ce n'est qu'une partie de mon fichier, la partie émergée de l'iceberg. Je crois que j'ai voulu faire un ouvrage où les sources affleurent, pour deux raisons, parce que je crois que les sources ont leur propre tonalité, on peut parler évidemment de couleurs locales, donc il est assez difficile de les transposer sans en perdre quelque chose. Et puis, deuxièmement, vous avez dû vous en apercevoir à la lecture du livre, cette langue du XVe siècle, en latin, mais surtout en français, est à mon avis une belle langue. C'est une langue qui est un petit peu difficile à comprendre, mais qui est beaucoup plus proche de la nôtre que la langue du XIIIe siècle. Donc, je crois, j'ai voulu effectivement donner la parole aux témoins de son temps.
Nombreuses citations.
Nombreuses citations que je revendique.
Dans leur jus.
Dans leur jus, avec un minimum d'explications, etc., de façon à ce que tout cela soit compréhensible, au moins à un lecteur un peu attentif. Alors, donc, cette biographie est fondée sur des sources écrites, puisque c'est le principal, mais ce ne sont pas les seules. Il y a également les sources iconographiques auxquelles je m'attarde, sur lesquelles je m'attarde. Et il est remarquable que non seulement il s'agit de sources que j'appellerais administratives, les archives du pouvoir, les archives de l'État, qui, en dépit des destructions, sont relativement importantes pour le XVe siècle en France, même si la Bourgogne est plus favorisée que le Royaume de France. Et puis ensuite, eh bien, les contemporains, à la fois critiques et admiratifs pour le roi de Bourges, en ont beaucoup parlé et se sont efforcés de le comprendre, de le juger, de l'analyser. Et donc ces analyses, en particulier celle de Georges Chastelain, celle de Thomas Bazin, j'en ai fait un large état.
Alors j'ai encore peut-être une réflexion générale sur votre ouvrage. Le politique prend dans votre livre le dessus sur la vie privée.
Oui, absolument. Même si la vie,
par exemple,
même
si Sorel.
Voilà, mais bien. J'en parle un peu suffisamment. C'est très important. Je pense que Agnès Sorel a un rôle politique. Peut-être que s'il y a une deuxième édition, j'ajouterai deux ou trois pages sur la belle Agnès, parce que c'est un personnage assez fascinant, qui est justement un personnage politique et qui a été compris comme tel par les contemporains. Mais donc, effectivement, c'est le politique qui prime, car enfin, le roi de France a à mener une politique à l'échelle du royaume. Il s'agit pour lui tout simplement de sauver son trône. Ne se dissimulons pas. Et donc, à l'arrière-plan, il y a évidemment toute l'évolution de la société, toute l'évolution de l'économie. Je ne pouvais pas le laisser de côté, mais il fallait choisir. Et j'ai mis l'accent sur les péripéties de la politique et naturellement, compte tenu de l'époque, de la guerre.
Alors nous sommes, Charles VII, nous sommes, vous expliquez, entre deux pôles. D'une part, des circonstances défavorables, mais nous sommes aussi à un moment de l'essor de l'État, ce qu'on oublie complètement. Mais vous rajoutez en fin d'introduction, je vous lis, avec Charles VII, on aurait un exemple somme toute remarquable de ce qu'on appelle parfois la naissance de l'individu. Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire que la notion d'individu est une notion qui n'existait moins au XIIe, XIIIe siècle.
Je pense qu'elle existait, mais les sources sont plus médiocres pour y avoir accès. Et donc je crois, j'attache beaucoup d'importance à ce fameux portrait de Charles VII par Jean Fouquet, vers 1450, il a 45, 50 ans, quelque chose comme ça, qui est un portrait véritablement réaliste, où le peintre, qui est un des plus grands peintres de l'histoire de la peinture française en tout cas, a essayé de comprendre son personnage de l'intérieur. Alors, il apparaît, pas flatté, ça c'est certain, on est un petit peu décontenancé par cette air triste, là, un peu boudeur, mais justement, il y a, c'est ça probablement ce qu'a voulu dire Jean Fouquet, il y a le contraste entre ce triste sire, et puis d'autre part, dans un décor assez anonyme, hein, il y a des rideaux qui s'ouvrent, etc., il n'a aucune décoration, aucun bijou, ni rien, et puis cette idée que c'est le très victorieux roi de France, le roi très chrétien.
Ce donc qui il est écrit y a en dessous.
Absolument. Et donc je pense que cette inscription date, parce qu'on en a discuté naturellement, de l'époque de la réalisation de ce portrait. Et il y a ce contraste, par conséquent, entre le personnage un peu falot, vous l'avez dit, vous l'employez le mot, un peu triste également, Et puis, cette vocation et cette reconnaissance que les gens lui ont accordée à l'époque même, le roi très chrétien et le roi très victorieux.
Alors, cette idée que nous ne possédons pas au départ, en tous les cas la perception que l'on peut avoir du règne, eh bien, vous y plongez dès les premières pages et vous montrez que, oui, nous vivons une époque d'angoisse, oui, nous vivons une époque de guerre, avec tout ce que cela suppose de difficultés, mais nous vivons aussi un temps de réforme.
Oui, il y a les deux aspects, effectivement, mais c'est assez lié. Je crois qu'effectivement, si on avait interrogé, je ne dirais pas les Français, mais des Français, au début du XVe siècle, lors de la naissance à Paris, à l'hôtel Saint-Paul de Charles VII, ils auraient dit « les choses vont mal ». Les choses vont très mal et par conséquent, il faut absolument remettre la machine en marche, à la fois du point de vue temporel et du point de vue spirituel. Donc ça, c'est une exigence qui en particulier est exprimée par quelqu'un qui m'a beaucoup retenu, qui me retient encore beaucoup, qui s'appelle Philippe de Mézières. Philippe de Mézières, dans Le songe du vieil pèlerin, qui a écrit en 1389, met en avant la nécessité de réformer en profondeur à la fois l'Église et le Royaume de France, le Saint-Royaume de France. Alors donc il y a, c'est à la fois de l'optimisme, parce qu'il y a une possibilité de réforme, et puis une constatation relativement angoissée pour différentes raisons. D'abord, il faut bien reconnaître qu'il y a les épidémies, il y a les pestes, il y a eu une peste assez terrible aux alentours de 1400, moins importante peut-être que celle de 1348-1350, mais quand même. Donc les gens vivaient dans cette angoisse, l'angoisse de la subsistance. Je pense que la France du début du XVe siècle est plus pauvre, moins de Français, et des Français appauvris, nettement appauvris, sensiblement appauvris, par rapport à la France des temps dorés, disons de 1340, avant le début de la guerre de Cent Ans.
Alors, on va passer sur l'enfance, mais j'ai beaucoup ri quand vous avez précisé qu'un astrologue, une source astrologique remontant à 1437, précise que la naissance eut lieu un peu après minuit ou un peu avant une heure et fixe sa conception, au 16 mai 1402 à 13h, 14 minutes et 18 secondes après minuit.
Eh bien,
vous avez un sens de la précision.
Eh bien, les horoscopes, ça commence au 14e siècle. Ouais, ouais, il y a une longue tradition, etc. Mais il y a un changement au 14e siècle et la figure de l'astrologue, des astrologues, dans les cours des rois, est une figure familière. Le père de Christine de Pisan, Thomas de Pisan, était médecin peut-être, mais physicien, comme on disait à l'époque, mais astrologue de Charles V. Donc nous avons la chance d'avoir l'horoscope de Charles VII. Donc c'est quelque chose, parce que c'est pour ainsi dire son destin qui est inscrit dans les astres. Et alors le problème, c'est parce que nous sommes dans une société chrétienne, quelle est la liberté des individus alors que le destin est inscrit dans les astres. Et alors, il y a cette formule, le sage domine les astres. Et donc, il appartenait à Charles VII de dominer la mauvaise conjoncture dans laquelle il est né. Et une mauvaise conjoncture, on le conçoit, parce que son père, Charles VI, depuis une dizaine d'années, en 1403, lors de la naissance de Charles VII, était fou. Donc il avait un père fou et une mère sur Isabeau de Bavière, la trop célèbre Isabeau de Bavière, sur laquelle on peut s'interroger.
Alors vous dites justement trop célèbre parce qu'il y a ce fameux traité de Troyes qui domine en quelque sorte l'historiographie et surtout l'historiographie du XIXe siècle comme une forme de trahison. Est-ce qu'on peut sauver Isabeau de Bavière?
Moi, je lui pardonne tout ce qu'on veut, parce qu'elle était... elle avait multiplié les grossesses, c'était une étrangère, et sentie quand même comme une étrangère, donc c'était mal vu par l'opinion, etc. Et puis elle avait ce mari fou, c'était pas commode quand même de vivre avec ce personnage, et je pense qu'elle n'avait pas une tête politique, c'est une affaire entendue. Mais le traité de Troyes, le honteux traité de Troyes, en 1420, On a beaucoup discuté à l'époque même, ça n'est pas le résultat de l'action d'Isabeau de Bavière. Elle est une comparse dans toute cette affaire.
Alors, quels sont, vous évoquiez Charles VI, quels sont les rapports du père et de son fils ?
Alors, il faut considérer que ces rapports sont devenus mauvais. L'idée, si vous voulez, c'est que les gens à l'époque avaient cette idée qu'il fallait que la maison de France soit unie. Toute maison divisée contre elle-même, entre elle-même, tout royaume divisé entre eux, est nécessaire. Affaibli et menacé de périr. Or, il se trouve que, justement, à cause de la folie du roi, eh bien, l'entourage du roi souhaitait, je ne dirais pas prendre sa place, mais occuper le pouvoir et en tirer le maximum de profit. Et il y avait deux camps. Depuis 1410-1411, il y avait ceux qu'on appelle les Armagnacs. Le terme est un terme, disons, qui est défavorable. Les Armagnacs, ce sont des gens brutaux, sanguinaires, qui viennent de très loin du sud, etc. On ne les comprend pas, on ne les apprécie pas à Paris. Et d'autre part, il y a les Bourguignons. Donc voilà les deux camps. Alors, les Armagnacs, pourquoi est-ce qu'on les appelle ainsi ? Parce qu'il se trouve qu'en 1407, le frère de Charles VI, le duc d'Orléans, a été assassiné sur ordre du duc de Bourgogne, Jean sans peur. Bien. Alors, donc, évidemment, la famille d'Orléans n'a pas été contente, et progressivement, il y a eu une tension qui a débouché sur une sorte de guerre civile, le temps des divisions. Alors, l'idée des Armagnacs, et en particulier Bernard d'Armagnac, qui était connétable de France et qui était le beau-père de Charles d'Orléans, fils de Louis d'Orléans, l'idée des Armagnacs, c'était d'avoir avec eux le roi, la reine et tous les enfants. Et c'était la même chose de l'autre côté. Alors, donc, il se trouve que en 1417-1418, eh bien, il y a eu une série d'événements qui a abouti à ce que la maison royale a été séparée, et d'un côté il y avait le futur Charles VII qui par hasard a rallié le camp des Armagnacs ou des Orléanistes si vous préférez, et de l'autre côté il y avait le duc de Bourgogne, Jean sans peur, qui disposer de la personne du roi, Charles VI, et de la personne de la reine, Isabeau de Bavière. Donc, la maison royale était divisée. Et en même temps, il y a eu l'invasion de l'Angleterre, Henri V d'Angleterre, qui a bien vu, disons que c'est une occasion en or pour lui, pour reprendre les vieilles ambitions qui remontent au XIVe siècle. Quelles sont ces ambitions ? Il y en a deux. Ou bien arracher la plus grande partie possible du royaume de France, en toute souveraineté, dépecer le royaume de France, ou bien, à la limite, devenir roi de France. Et les circonstances ont fait, à la suite de l'assassinat de Jean sans peur en 1419, sous les yeux du dauphin et sans doute Charles VII, et sans doute avec son approbation, il était tout jeune, il est débordé, etc., eh bien, l'assassinat du duc de Bourgogne a fait que les Bourguignons, qui auparavant n'étaient pas nécessairement pro-anglais, se sont rapprochés des Anglais. Donc il y a eu une alliance anglo-bourguignonne, le résultat, ça a été le traité de Troyes, qui a été signé, ou du moins conclu, à Troyes en Champagne, en mois de mai 1420. Et ce traité de Troyes, c'était un traité en même temps de paix, en quelque sorte, puisqu'il était prévu que le dauphin qui s'était révolté contre son père était un rebelle, qu'on pouvait le déshériter, d'autant qu'il avait assassiné Jean sans peur, ou fait assassiner Jean sans peur, et d'autre part, eh bien, Charles VI resterait roi de France jusqu'à sa mort, et après quoi, eh bien, Henri V le deviendrait, et serait à la fois roi d'Angleterre, il l'était depuis 1413, et roi de France.
Donc, quand Charles VI meurt, Charles VII est complètement affaibli.
Alors, donc, là, c'est un petit peu, il est à la fois affaibli, il a quand même un peu de chance, à savoir que Henri V meurt très jeune, prématurément, à 35 ans, quelque chose comme ça, en 1422, et que Charles VI lui survit. Charles VI, du reste, qui était aussi, je ne l'ai pas dit, le beau-père de Henri V, puisqu'il avait donné en mariage sa dernière fille, Catherine, à Henri V, d'où le roi Henri VI. Alors, le schisme royal se trouve consommé à la mort de Charles VI, en octobre 1422. Nous avons deux rois qui, l'un et l'autre, se prétendent légitimes. D'une part, Charles VII, qui se proclame roi aussitôt, sans problème, en tout cas sans problème apparent, et d'autre part, le tout jeune fils de Henri V et de Catherine, qui avait juste un an, à peine un an, et qui se trouvait en Angleterre, mais qui, en raison de l'application du traité de Troyes, devient ipso facto roi de France, en même temps qu'il est roi d'Angleterre. Donc il y a un schisme royal qui fait pendant, si vous voulez, au grand schisme qui, de 1378 à 1418, a divisé la chrétienté. Donc on peut parler de schisme royal. Et donc le savoir, entre ces deux rois, qui ont chacun des forces et des faiblesses, etc., qui allait l'emporter. Et finalement, comme vous le savez, eh bien, grâce en particulier à Jeanne d'Arc, pour quand même dire son nom, c'est Charles VII qui va l'emporter, mais non pas facilement, non pas rapidement, au terme d'une longue lutte, avec des hauts, avec des bas, avec des circonstances tout à fait étonnantes, et on peut dire que c'est simplement en 1429, lorsqu'il est sacré et couronné à Reims par la grâce de Jeanne d'Arc, de la Pucelle, que sa position à l'international, mais surtout en interne, auprès des sujets, se trouve réellement consolidée. Hein, donc il y a un temps un petit peu de fragilité entre 1422 et 1429.
Alors je vais revenir un peu quand même en arrière puisque vous en parlez, et c'est vrai que c'est un point extrêmement important, je pense, qui intéressera nos auditeurs, c'est la relation qu'entretient Charles VII avec Jeanne. Et vous décrivez avec force détail les différentes versions de leur première rencontre. Qui est un moment extrêmement important parce que où il y a une part miraculeuse, et votre ouvrage d'ailleurs, j'allais dire, n'écarte pas d'un revers de la main cet aspect qui est, on va dire, l'aspect surnaturel.
Il y a une part de mystère.
Exactement.
Il y a une part de mystère, à savoir que, effectivement, nous sommes dans une période de chrétienté. Charles VII n'était peut-être pas un roi très dévot, à la différence, si vous voulez, de Louis XI, ou à la différence de Saint-Louis, bien sûr. Mais enfin, il vivait dans une atmosphère de chrétienté. Et par conséquent, il savait que Dieu gouverne les temps et les royaumes. Et par conséquent, compte tenu de tout ce que pouvait représenter le royaume de France au niveau international, il pouvait se dire, jamais Dieu n'acceptera que ce royaume de France, pour ainsi dire, disparaisse, soit dissous dans un conglomérat France-Angleterre. Donc il y avait quand même peut-être une attente chez lui. Et donc voilà que brusquement, on lui dit qu'il y a une pucelle qui vient de Lorraine, etc., porteuse d'un message et tout. Alors il hésite un peu parce qu'il y a du risque, parce qu'il ne veut pas être berné, et puis peut-être qu'il y a eu d'autres épisodes auparavant qui n'ont pas été concluants. Et finalement, il dit, ben écoute, je vais la voir, je vais la rencontrer, et puis on verra bien. Alors, donc on verra bien, et à ce moment-là, il y a, semble-t-il, un dialogue. Nous ne connaissons pas la teneur de ce dialogue, mais il y a un dialogue, et Jeanne d'Arc, la pucelle, la petite pucelle qui a 17 ans, arrive à convaincre Charles VII que quelque chose se passe et qu'il faut lui faire confiance.
Il y a aussi
alors
l'histoire
pourquoi,
de la
comment, je n'en sais rien, la reconnaissance, etc. Est-ce que Jeanne d'Arc lui aurait dénié un disons, lui aurait parlé d'un événement mystérieux que lui seul, Charles, connaissait, et que voilà, parce que bon, je ne sais pas, on s'est beaucoup interrogé à l'époque même. Mais enfin, je pense que lors de cette rencontre, il n'y a pas de journaliste ni rien, etc., mais assez rapidement, il y a une version, voire des versions qui ont circulé, cette rencontre a été une rencontre fondamentale. Charles VII, qui était quand même pas un enthousiaste né, va dire, bah allons, quand même, il y a peut-être quelque chose. Mmh. Alors donc, finalement, il y a eu un examen de Jeanne d'Arc, parce qu'il fallait quand même ne pas être dupe, et donc il y a eu ce long examen à Poitiers, après la rencontre de Chinon, disons aux alentours du 1er mars 1429, et cet examen par des gens de loi, par des théologiens, par des canonistes, par des gens d'église, etc., a été concluant, et il y a une sorte de procès-verbal qui a été diffusé, semble-t-il. Eh bien, il faut lui faire confiance, ce serait être ingrat envers Dieu que de refuser le secours qu'éventuellement la Providence nous envoie. Mmh. Et c'est ainsi que Jeanne d'Arc a été équipée, a été armée, elle a reçu une bannière, même deux bannières, etc., un étendard, que sais-je, et elle est partie à la délivrance d'Orléans. C'est là où elle avait dit « Je montrerai mon signe ». Le fait que je sois envoyé par Dieu, c'est à Orléans que je le montrerai, et c'est ce qui s'est passé, puisque le siège d'Orléans a été levé par les Anglais.
Le 17 juillet 1429, c'est le sacre, Jeanne est près du roi, le roi sait qu'il est là grâce à Jeanne.
Je le suppose, on a quand même d'assez bonnes raisons de le penser. C'est pas simplement par sa personne et par les gens de guerre dont il était entouré. Hein, donc il y a, si vous voulez, c'était risqué, hein, parce que Reims, la ville du Sacre, était en plein territoire bourguignon anglais. Et donc il fallait récupérer la ville. Et il y a eu une double action, une action, disons, de Charles VII auprès des gens de Châlons, auprès des gens de Troyes, auprès des gens de Reims, pour leur dire « Je vous pardonne tout, vous avez été infidèle compte tenu des circonstances, mais je vous pardonne, je vous traiterai bien. » Et puis une autre action, un autre discours de Jeanne d'Arc, un peu impérieux, « Si vous ne obtempérez pas, si vous n'ouvrez pas vos portes, gare à vous. » Hein, donc il y a eu cette double action qui se voit, disons, dans les messages envoyé par Charles VII et par Jeanne d'Arc. Donc je crois que le 17 juillet, le dimanche 17 juillet, donc Charles VII est quand même reconnaissant à Jeanne d'Arc, d'où la place de Jeanne d'Arc dans la cérémonie, qui est quand même un petit peu exceptionnelle. Donc là, je crois que on peut parler, disons, je dirais pas de lune de miel, mais enfin, un accord complet. Un accord à peu près complet. Ils ne se voyaient pas tous les jours. Hein. Et Charles VII d'un côté, Jeanne d'Arc de l'autre. Bon, ils puissent se rencontrer de temps en temps, mais enfin, ils ne se voyaient pas tous les jours. Ils ne se chevauchaient pas à longueur de journée l'un à côté de l'autre. Et donc, c'est ce que j'essaie de montrer. C'est un apogée, parce que Jeanne d'Arc avait dit, après Reims, il y aura la reprise de Paris. Elle l'avait, pour ainsi dire, prophétisé, car Jeanne d'Arc est vue comme une prophétesse.
Paris ne tombe pas.
Et Paris ne tombe pas. Donc je pense, pour ma part, que ça a quand même dégrisé Charles VII. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors on dira,
mais Charles VII n'a pas fait ce qu'il fallait. Il s'est tenu en retrait, etc. S'il était apparu dans sa majesté sous les murs de Paris, peut-être en appui de la main dans la main, la pucelle et Charles VII, peut-être que les Parisiens se seraient laissés faire. C'est incertain. En tout cas, Charles VII ne l'a pas fait, et le résultat, c'est que la prophétie de Jeanne d'Arc tombe à l'eau, et pour moi, c'est un tournant dans la vision que Charles VII et que son entourage, à la fois militaire et religieux, pouvaient avoir de Jeanne d'Arc. C'est un début d'explication, si vous voulez, pour rendre compte de l'ingratitude. manifeste dont il a fait preuve lorsque Jeanne d'Arc a été fait prisonnière en mai 1430.
Alors vous devancez ma question, justement. Est-ce qu'il y a très sûrement un double jeu de Charles VII dans ses relations avec Jeanne? Il ne fait rien, par exemple, pour la libérer?
Alors, je crois qu'il y avait deux aspects. L'aspect que j'ai évolué, l'aspect que je pourrais appeler théologique, hein, ça compte, hein.
Bien sûr.
Pas parce que Jean Chancelier, Renaud de Chartres, c'était un homme d'église, archevêque de Reims, c'est lui qui l'avait sacré et couronné. L'aspect théologique, et puis un autre aspect, l'aspect que je parlerai diplomatique et militaire. Charles VII avait cette idée, compte tenu du rapport de force, compte tenu de l'état de mon royaume, de mes finances, de mes gens de guerre, etc., je ne pourrais m'en tirer face à ces Anglais qui sont des guerriers redoutables, faut pas l'oublier, que si je disjoins l'alliance conclue au traité de Troyes, par conséquent la rupture entre la Bourgogne et l'Angleterre. Hein, donc voilà. Donc il faut négocier. Il faut négocier, et par conséquent, il faut faire des concessions au fils de Jean sans peur, c'est-à-dire à Philippe le Bon. Et donc, eh bien, il faut faire avec. Et au contraire, Jeanne d'Arc déclare que non, les Anglais sont des ennemis, ils n'ont qu'à rentrer chez eux, et les Bourguignons sont des rebelles et des traîtres, ils n'ont qu'à se soumettre. Les gendarmes batailleront, et Dieu donnera la victoire. Donc il y a deux analyses. Donc il y a, pour ainsi dire, j'essaie d'excuser Charles VII, ou de l'expliquer en tout cas, l'excuse théologique, l'excuse de caractère, c'est quand même deux caractères différents, bon, naturellement, et puis l'excuse qu'on peut appeler politique, deux visions politiques, et finalement, Charles VII a réellement récupéré matériellement son royaume à la suite du traité d'Arras de 1435, qui aboutit à ce que Philippe le Bon reconnaisse le roi de France comme le véritable roi et se sépare du roi d'Angleterre, Henri VI.
Le procès, et ce sera le dernier point sur Jeanne, il y a le procès de révision qui est important. Est-ce que, quitte à être un peu provocateur, est-ce que Charles VII pensait à une forme de culpabilité de Jeanne d'Arc?
Non, je ne crois pas. Je pense que il y a un silence presque complet pour dire, de Charles VII sur Jeanne d'Arc entre 1430 et 1449. Bon. On ne sait pas ce qu'il pense.
Ce qui est incroyable, 19
ans. C'est incroyable, entre 1430 et 1449. Alors qu'il y avait des Français, non seulement à Orléans mais ailleurs, qui demeuraient fidèles ou à souvenir de la Pucelle, hein, et qui reprochait, au moins implicitement, à Charles VII de n'avoir rien fait pour l'attirer des griffes des Bourguignons et des Anglais. Donc un silence quasiment total, un silence coupable, et, alors qu'il aurait pu quand même se renseigner. Et en particulier, il aurait pu se renseigner parce que il y avait, surtout à partir de 1435, dans son entourage, un certain Thomas de Courcelles, personnage considérable à l'époque, n'est-ce pas, un homme d'église qui est enterré du reste à Notre-Dame de Paris. Et ce Thomas de Courcelles a été le rédacteur des actes du procès de Jeanne d'Arc en 1431. Et j'imagine que Thomas de Courcelles avait une copie par-devers lui. Donc Charles VII, s'il avait été, entre guillemets, un peu curieux, aurait pu demander à Thomas de Courcelles, qu'il connaissait bien, mais... Qu'est-ce que c'est que ce procès? Qu'est-ce que Jeanne d'Arc a dit de moi pendant ce procès? Et donc, là aussi, un manque de curiosité, je ne sais pas, une apathie, etc. Et c'est simplement à partir de 1450, lors de la reprise de Rouen par Charles VII, il entre dans Rouen en novembre 1449, que les langues se délient, et que on le met en contact avec des gens qui ont connu le déroulement du procès. Et donc il y jette un coup d'œil et il s'aperçoit que Jeanne d'Arc lui a été imperturbablement fidèle. Si faute il y a, c'est la mienne, mais ça n'est pas celle de mon roi. Voilà, donc il y a quelque chose, quand même, Charles VII était un cynique, hein, bon, c'est une affaire entendue, mais peut-être quand même il a été un petit peu ébranlé. Donc c'est un premier élément qui montre que la fidélité absolue de la Pucelle, de Jeanne d'Arc vis-à-vis de Charles VII. Et puis un deuxième élément, c'est qu'on lui a fait comprendre quand même que c'était dangereux, c'était mauvais, c'était contraire à son honneur que de devoir son sacre à quelqu'un qui avait été condamné par l'Église, brûlé par l'Église, comme une sorte de sorcière. Devoir son sacre à une sorcière, c'est quand même difficile. Donc, il s'est dit, il faut faire quelque chose. On lui a convaincu que son honneur était en jeu. Et à ce moment-là, il a fallu qu'il intervienne au sommet, puisque pour démolir, pour déconstruire le procès de 1431, il fallait une autorité au-dessus de celle de Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, et par conséquent, il fallait s'adresser au pape. On aurait pu imaginer s'adresser au concile, le concile de Bâle, mais à ce moment-là, le concile de Bâle disparaît. Donc, il s'adresse au pape. Alors, le pape est au courant, les papes sont au courant, parce qu'il y a plusieurs papes qui ont été dans l'affaire, et les papes, pour différentes raisons, donne le feu vert, eh bien allons-y, nous autorisons une révision du procès de 1431. Alors, cette révision a occupé plusieurs années, 1450-1456, et elle s'est achevée par une sorte de réhabilitation de Jeanne d'Arc. C'est ce qu'on appelle le procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc. On n'en fait pas une sainte, ni nationale, ni religieuse, mais on l'innocente, ce qui est quand même important.
Alors, le moment où vous évoquez ce procès de Jeanne d'Arc, et là nous allons sortir de cet épisode, c'est un chapitre que vous avez intitulé « Trois procès », et c'est un moment très important parce que cela montre, d'après vous, une sorte de reprise en main, et notamment des questions de justice. Il y a deux procès majeurs, il y a à la fois Jacques Coeur et aussi Jean d'Alençon.
Le duc d'Alençon. Mmh. Donc le fait même qu'on puisse faire des procès politiques, et ces trois procès sont des procès politiques, y compris le procès de réhabilitation, il ne faut pas se faire d'illusions. Bon, la politique est tout, même s'il y a du religieux derrière. Et donc ces trois procès, eh bien, disons, aux alentours de 1430-1440, Charles VII n'aurait pas pu les mettre sur place, il n'avait pas l'autorité nécessaire. Il n'avait pas l'autorité pour condamner les uns et les autres. Donc c'est pour ça que j'attache de l'importance au procès de Jacques Coeur, personnage considérable, tout à fait étonnant, là encore à la charge de Charles VII, puisque somme toute, il a fait condamner ce personnage hors du commun qui lui a rendu de très grands services et qui a relancé le grand commerce dans la France au milieu du XVe siècle. Voilà encore un grief. Et puis ensuite, Jean, duc d'Alençon, qui était du reste très proche de Jeanne d'Arc au temps de... dans les années 1430-1431, et qui s'abouche avec les Anglais pour les faire rentrer en Normandie. Donc là, il y a une traîtrise manifeste. Alors donc, dans le cas de Jeanne d'Arc est réhabilitée avec l'argent du roi. Et puis les juges, etc., sont très proches du roi. Jean Juvénal des Ursins, Richard Olivier, etc., c'est vraiment très proche du roi. On voit la présence de Charles VII derrière tout cela, même si c'est une présence relativement discrète. Alors, pour Jacques Coeur, eh bien, Jacques Coeur, il avait quantité de qualité, un chef d'entreprise extraordinaire, mais enfin, objectivement, il avait quand même pris un petit peu de l'argent dans la caisse publique. Et puis ensuite, il avait quand même pactisé avec le Soudan de Babylone, c'est-à-dire le sultan Mamelouk, etc. Bon, il y avait quelque chose d'un petit peu louche, et en particulier, il y avait un esclave qui s'était réfugié en France et que Jacques Coeur a restitué au sultan Mamelouk pour maintenir les contacts commerciaux entre l'Égypte et la France, et puis le troisièmement, donc Jacques Coeur en même temps, c'était un homme de finance. Il levait l'impôt, c'était un de ceux qui levaient l'impôt pour le roi. Et entre la caisse du roi et sa propre caisse, si vous voulez, il y avait peut-être, comme à l'époque de Fouquet, il y avait quand même des ponts. Donc il y avait quand même quelques raisons pour le condamner. Il n'a pas été condamné à mort, il aurait pu l'être au nom de la lèse-majesté, mais enfin, on s'est contenté.
Il n'a pas vécu pauvre, il est parti à Rome.
Voilà, on l'a laissé peut-être partir, je n'en sais rien, mais enfin, on a confisqué sa fortune, tout le monde en a profité. Il faut dire que Jacques Coeur était jalousé. Jalousé par les marchands du royaume, parce qu'il y avait une sorte de monopole, il empoignait toute la marchandise du royaume, alors les autres marchands disaient, et notre rôle, notamment à ceux de Montpellier. Et puis ensuite, il y avait tous ces courtisans, tous ces nobles ruinés, dispendieux, qui dilapidaient leur fortune à une époque où les ressources nobilières avaient été fondées et qui avaient emprunté beaucoup à Jacques Coeur. Par conséquent, c'est la révolte des débiteurs, pour ainsi dire, plus une affaire, mais qui a été rapidement écartée. On l'a accusé d'avoir, on a accusé Jacques Coeur d'avoir empoisonner la belle Agnès.
Alors je reviens à la politique pour montrer précisément cette volonté, cette idée de réforme de l'État. Est-ce que Charles VI était un homme qui gouvernait par lui-même ?
Charles VII, pardon. Je le pense. Alors évidemment, disons, il a commencé à être aux affaires en 1417. Hein. Il a été dauphin en 1417. Et puis il a été roi en 1422, et puis 42, oui. 1461. Donc on peut évoluer. Il y a eu des temps morts, et il y a eu des moments où il dormait.
Ce que vous montrez bien.
Où il dormait, n'est-ce pas, en disant il faut absolument que tu te réveilles. Sans ça, ce sera très mauvais pour toi, et on va et les Français vont se débarrasser de Charles VII au profit éventuellement d'un roi sarrasin, pour n'importe quoi, si vous voulez. Mais quand on regarde un petit peu les archives, par exemple les comptes rendus de conseil, et puis également les très nombreuses signatures de Charles VII au bas des actes, notamment des documents financiers, oui, il gouvernait par lui-même, oui, il suivait les affaires. Et notamment aussi ses interventions dans le domaine de la diplomatie.
Et vous racontez une anecdote avec Marguerite de Valois, où on le voit presque calculateur, choisissant son entourage avec intelligence.
Absolument, c'est donc c'est l'explication qu'il a donnée de son règne, parce que ce règne est parsemé de faveurs et de disgrâces, et il dit, mais mon système, c'est le système de la chaise périlleuse, ça remonte à, disons, au roi Arthur, etc. Le roi Arthur avait une table ronde, et donc il y avait une place vide à côté de lui, la chaise périlleuse. Et donc, on pouvait l'occuper, mais malheur à ce pas si on n'était pas à la hauteur. Donc la chaise périlleuse, c'est lui, un siège éjectable, c'est lui qui actionne le bouton. Et donc, c'est ce qu'il dit, en tout cas. Puis, deuxième comparaison, la roue de la fortune. La roue de la fortune, qui est un thème depuis le XIIe siècle extrêmement répandu dans la littérature, et c'est moi qui actionne la roue. Alors les gens croient être très tranquilles au sommet de la roue, et puis un tour de roue, et je les précipite. Mais du même coup, émulation, et j'en suis mieux servi. Alors est-ce que c'est une réinterprétation de son règne ? C'est possible. Je crois qu'à plusieurs moments de cette longue période, il n'était pas le maître du jeu. Voilà. Et donc il y avait quand même chez lui, disons, une faiblesse de caractère, des circonstances longtemps très très difficiles, peut-être aussi une faiblesse de caractère, et on le voit très bien, et comment, disons, pour écarter les gens, il procède de façon oblique. Et donc, voilà, il n'est pas très franc. Il y a côté chez lui un petit peu hypocrite, n'est-ce pas ? C'est aussi. Mais je crois qu'il était à la hauteur, et je pense que dans l'ensemble, la politique royale, c'est lui qui l'amène.
Vous dites Charles VII durant la majeure partie de son règne, loin d'être la marionnette qu'on a souvent décrite, intellectuellement et physiquement débile, insensible et apathique, se montra digne de son office, de façon persévérante et habile.
Voilà.
Est-ce que c'était un roi, Philippe Contamine, nous arrivons au terme de cette émission, est-ce que c'était un roi aimé des Français?
Alors, je le crois. Je crois que, je ne sais pas à tous les moments du règne, mais donc j'ai longuement scruté les circonstances de sa mort, de ses obsèques, etc. Et je pense, pour ma part, qu'il a été aimé, peut-être pas de tous les Français, mais qu'il y avait, en dépit de tous ses défauts, en dépit du fait qu'il ne se montrait pas toujours, etc., qu'il était toujours un peu en retrait, c'était un roi qui avait une bonne presse, pour ainsi dire. Et pourquoi cela? Eh bien parce qu'il avait remporté la victoire, et avec la victoire, la paix, et avec la paix, la prospérité.
Eh bien, c'est sur cette belle idée de prospérité, hein, aux temps médiévaux, que nous allons nous quitter. Merci beaucoup.
Merci,
Philippe
à vous.
Contamine, donc Philippe Contamine de l'Institut Charles VII, une vie et surtout une politique. Il s'agit de votre livre paru chez Perrin, un bel hymne, comme en témoigne la totalité de votre œuvre, au monde médiéval, donc collection biographie chez Perrin. Merci beaucoup, chers auditeurs. Je remercie Georges à la technique et vous pour votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux grands entretiens.